Cobuzz.com. Rencontre.
Haute fidélité.
Par Marc Zisman.
Bonjour Eric Van Gutt.
Bonjour.
Quai du Son, Coelis,
oui.
Deux noms assez prisés dans le monde de la haute fidélité. Alors d'abord celui de Coelis, qui est des enceintes plutôt prestigieuses, que vous sous-titrez d'ailleurs la haute couture de l'enceinte acoustique.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un journaliste qui
vous a dit ça. Alors avant d'en arriver là, vous allez peut-être nous raconter un petit peu votre parcours. Il y a eu du bricolage personnel, je pense, à la maison quand vous étiez tout jeune. Ensuite, il y a eu un magasin qui est devenu ce que l'on sait. Puis ensuite, après, le lancement de cette marque prestigieuse. Alors, comment a commencé cette passion pour, j'allais dire, ne serait-ce que l'audiophilie et le beau son?
En fait, ça a démarré très jeune. J'ai été attiré, alors que je n'étais pas baigné dans un environnement familial qui était très, très orienté vers la musique classique en particulier. J'ai été attiré spontanément vers la musique classique, sans que j'aie d'autres explications. Et j'ai toujours, en effet, c'est quand même la musique qui le cœur de tout cela, c'est quand même la musique. Et très tôt, je me suis mis à fabriquer des enceintes. J'avais une vingtaine d'années.
Vous bricoliez, vous étiez...
Voilà, je bricolais chez mes parents, chez mes grands-parents. C'était quelque chose de... Ça me semblait relativement facile, contrairement aux électroniques, avec beaucoup de composants, etc. Donc, alors qu'en fait, c'est l'enceinte qui est la plus difficile à réaliser correctement.
Vous étiez autodidacte ?
Comment ça ? Au départ, oui. Au départ, je n'avais pas de connaissances techniques. Après, bien sûr, les études, la formation ont agrégé un potentiel de connaissances. Mais au départ, c'était effectivement purement l'envie de bricoler pour arriver à ses fins, quoi. Écouter de la musique sur une paire d'enceintes acoustique.
Alors ces premiers bricolages, est-ce que vous aviez une vision précise du son que vous recherchiez, ou c'était plus finalement un peu le petit savant fou qui s'amusait à bricoler dans son atelier ou dans sa chambre?
Je dirais que je savais surtout ce que je ne voulais pas écouter. Donc forcément, il y avait quand même une orientation dans les choix que j'avais faits. Cela étant, cette orientation s'est vraiment affinée avec le temps, réellement avec le temps. Et notamment ces dernières années, quand je me suis véritablement spécialisé, où là j'ai pu faire un peu plus que ce que j'avais envie de façon pratique.
Quand Quai du Son a été ouvert au début, c'était quoi l'objectif précis?
Alors, donc j'ai continué, si vous voulez, j'ai eu un parcours professionnel traditionnel, mais toujours en ayant cette passion au niveau de la reproduction sonore. Et lorsque, à la suite d'un aléa de vie professionnelle, lorsque j'ai créé Quai du Son, ça remonte maintenant, il y a presque 10 ans maintenant, j'avais comme projet quand même de lancer une marque, une gamme d'enceintes acoustiques. Mais connaissant le marché, je me disais ça ne va pas être très facile. Donc il fallait asseoir ça sur une activité commerciale plus large, donc d'où l'idée de Quai du Son, qui est un auditorium en fait de haute qualité, dans lequel j'allais pouvoir présenter mes propres fabrications.
À partir de quel moment finalement, avant cette ouverture, vous avez été pleinement satisfait de vos créations, on pourrait dire?
Une dizaine d'années avant à peu près. Une dizaine d'années avant la création de Quai du Son, où j'ai véritablement... puis d'autres gens surtout m'ont conforté dans ce que je faisais, c'est ça aussi qui est important. Quand vous êtes en fait, la démarche qui est la mienne est à la limite de la technique, enfin est à la frontière du technicien et de l'artiste. Je me définis plus volontiers comme un luthier acousticien que comme un ingénieur. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a beaucoup de techniques, de technologies dans une enceinte acoustique, mais il y a surtout ce qu'on va en faire de ces technologies. On peut avoir on peut faire des analogies avec la cuisine très facile. Il faut une bonne recette, il faut de très 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 bons ingrédients, et il faut surtout le chef capable de réaliser tout cela de façon, si possible, exceptionnelle. C'est ça qui va faire la différence.
Est-ce qu'il n'y avait pas une peur aussi, parce qu'on sait que le marché de l'enceinte acoustique est un peu saturé pour...
Il y avait une très grande peur aussi, que j'assimile plus à de la modestie d'ailleurs. Mmh. Je n'ai pas immédiatement présenté mes productions dans le magasin, pas typiquement dans le showroom. J'ai attendu de voir ce qui se passait, et quand je voyais les propositions commerciales traditionnelles, ça n'a pu que m'inciter à présenter mes propres réalisations.
Est-ce que c'est parce que le plus difficile, c'est de justement dans ce marché saturé, de prouver aux autres que vous amenez quelque chose de particulier, une spécificité? Au début, je parle notamment, quand vous avez commencé à commercialiser vos enceintes.
Oui, tout à fait. C'est très difficile. En fait, ce que je me disais, c'est qu'il fallait être différenciant. Il fallait être, c'est un peu fort, mais il fallait être discriminant. Parce qu'effectivement, on écoute 20 paires d'enceintes différentes, on va avoir 20 sonorités différentes. Ce qui d'ailleurs en soi est un petit peu anormal. On devrait normalement, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais on devrait normalement retrouver quand même une uniformité en matière de restitution sonore. Or, souvent, on assiste à des approximations de restitution sonore. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision très claire de ce que l'on veut obtenir au niveau restitution, précisément. Et c'est là, je crois, c'est déjà le point de départ. Il faut avoir un projet très clair, une vision très claire de ce que vous allez obtenir. Et à partir de là, vous sélectionnez des technologies que vous allez agréger autour de ça pour obtenir le résultat que vous voulez obtenir.
Comment on vend, comment on transmet cette spécificité toujours au début de cette aventure? Alors évidemment, toujours le mieux, c'est de dire, asseyez-vous, écoutez, ce qui reste, j'imagine, la meilleure des choses. Mais comment ça fonctionne finalement?
Non, je pense que les gens, si vous voulez, moi ce que je propose, c'est un univers. Donc il faut que les gens rentrent dans votre univers et qu'ils comprennent ce que vous leur présentez. Les plus intimes inflexions d'un instrument de musique, par exemple, ne seront pas perçues par tous les systèmes. C'est l'expérience qui me fait dire ça. Donc si vous arrivez à valoriser ce type de détails, par exemple, et que la personne est sensible à cela, c'est comme ça que vous arrivez, toujours en marquant vos différences. Commuez ça aussi avec beaucoup de passion. Il faut être passé la passion que vous communiquez, c'est votre passion pour la musique que vous communiquez et du coup pour la restitution sonore.
Vous avez rapidement su vers quel type de clientèle vous vouliez toucher par rapport. Alors évidemment, c'est vrai que dès qu'on parle d'enceinte acoustique, il y a tout de suite évidemment les sommes qui vont avec. Donc comme on le sait, ça peut être très très large, le spectre peut être très très large.
Oui.
Comment vous avez abordé justement cette problématique, qui est quand même une vraie problématique quand on décide de se lancer, de savoir dans quelle direction aller?
Le marché est occupé. Je veux dire, vous avez dit tout à l'heure, à ce juste titre, qu'il y a énormément de produits, de marques sur le marché. Donc si on veut être différenciant, il fallait se positionner sur le marché, sur un créneau de qualité spécifique, particulier. Donc, évidemment, moi personnellement, j'ai engagé ça sur le créneau du haut de gamme, du très haut de gamme. Et les clients ont abandonné des références qu'ils possédaient pour acquérir des coulisses. C'est clairement le haut de gamme qui nous a fait rentrer dans le marché. Avec aujourd'hui cette volonté, j'anticipe peut-être sur une de vos questions, mais aujourd'hui justement de démocratiser.
Oui, vous avez sorti Lully,
notamment. Voilà, qui remporte un succès vraiment pour nous considérable. Ça fait 2 mois que cette enceinte est sur le commercialisée et on n'a jamais eu autant de. Forcément, on a élargi le panel de clients avec un produit qui reste dans la signature sonore d'une coulisse, mais qui est beaucoup plus abordable financièrement.
Alors dans vos spécificités, c'est aussi une fabrication française et presque même régionale pour pas mal d'aspects. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Bah là, c'est presque un acte citoyen. Ouais. C'est-à-dire que contrairement aux grandes majors, je ne critique pas les stratégies commerciales ou industrielles des uns ou des autres, mais contrairement à ces grandes entreprises qui sont massivement délocalisées dans les pays asiatiques en particulier, moi j'ai essayé de garder à la façon des pépinières japonaises la production, la fabrication pratiquement intégralement en France. Donc en effet, j'ai créer un réseau de partenariats avec des partenaires très spécialisés dans leur métier, les ébénistes industriels, des finisseurs, des laqueurs industriels, les haut-parleurs qui sont faits à trois par la société Davis Acoustique. Sur cahier des charges, ce sont des HP Qualys, je le précise. Il n'y a que certains composants que nous ne les trouvons malheureusement plus en France, j'achète au Danemark ou en Allemagne.
Ça, c'est un coût, ça, finalement, par exemple, de se dire, tiens, on veut que l'ébénisterie, elle soit à Tourcoing et pas à l'autre bout du monde.
Oui, ça a un coût. C'est effectivement plus cher que les productions massives réalisées en Asie, mais ça a aussi surtout une conséquence, c'est la qualité des produits. Nous avons une qualité de produits qui est absolument exceptionnelle, une qualité de composants et une qualité de fabrication absolument au-dessus de la moyenne, très au-dessus de la moyenne.
Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir justement en lançant la Lully, donc de baisser drastiquement la facture pour le client, pour le mélomane? J'imagine que c'est de garder une certaine qualité, mais comment vous avez abordé ce dossier-là?
Si vous voulez, je crois que c'est plus facile déjà de partir du haut avec une maîtrise réelle et ensuite de décliner le concept de façon plus démocratique. Ça veut dire qu'on garde les fonds baptismaux, mais qu'en revanche, on va faire des compromis sur certains aspects de la conception de l'enceinte. Là, en l'occurrence, on a gardé le cœur du système, par exemple, la qualité des composants du filtre. On a gardé des composants de haute qualité eu égard au statut du produit. Pareil pour les haut-parleurs. On n'a pas cherché. On a fait des essais, pour tout dire. On a fait des essais avec des composants moins 10 ans. Je ne pouvais pas raisonnablement accoler l'étiquette Qualys sur des produits comme ça. Ça ne me satisfaisait pas du tout. Donc on est resté sur un standard de qualité élevé, en jouant sur des critères, selon nous, mineurs. Par exemple, on tend un jersey sur le corps de l'enceinte au lieu d'y apposer une laque. Ça n'a aucune répercussion sur le plan sonore, mais c'est infiniment moins coûteux la fabrication.
Comment l'évolution des pratiques d'écoute des mélomanes, avec aujourd'hui l'arrivée du digital et du digital, disons, de qualité, vous a fait évoluer éventuellement votre approche de l'acoustique? Est-ce que ce sont des données, même ne serait-ce que, et même ensuite, est-ce que le client, vous voyez en face à vous, des clients qui ont évolué, qui ont changé des...
Oui, tout à fait, énormément. On a eu un premier pic, si vous voulez, d'intérêt pour la musique dématérialisée, puisque c'est dont on parle, il y a 4-5 ans. Il y a vraiment eu un intérêt, des questionnements, des questions, etc. Ça foisonnait un peu. Et puis le soufflet est retombé, curieusement. Depuis, je dirais, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, là, c'est remonté en force, mais là, ça ne rechute plus. C'est-à-dire qu'on sent l'intérêt croissant des gens pour les technologies dites numériques. Les gens sont aujourd'hui véritablement mobilisés sur le fait de pouvoir consommer, entre guillemets, puis écouter de la musique différemment sur n'importe quel type de support. Alors, notre clientèle, bien sûr, veut garder un certain niveau de qualité. Donc, ce ne sera pas du MP3, par exemple, ce sera du fichier lossless, FLAC, WAV et compagnie. Mais il y a vraiment une exigence à la fois d'ouverture sur les technologies et à la fois de maintien d'un certain niveau de qualité.
Ça a un impact dans votre brainstorming sur cette quête? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a, ça sera peut-être une autre question, une sorte finalement de quête permanente d'un certain son?
Oui, mais là, il faut rester très, là encore, il faut rester modeste. Et si vous voulez, à un moment donné, l'exigence, que ce soit dans n'importe quelle démarche, ne se partage pas avec tous. Donc il faut pouvoir, c'est aujourd'hui le cas de la gamme Qualys, on présente finalement plusieurs niveaux de technologies embarquées dans les produits qui permettent, pour le même modèle d'enceinte, de disposer d'une technologie qui vous convienne parfaitement. Votre degré d'exigence, en fait, n'est pas le même que le mien. et réciproquement. Donc on va adapter absolument à la perfection, enfin on essaye, la solution technique qu'on va vous proposer par rapport à votre degré d'exigence. La musique dématérialisée n'a pas en soi changé, c'est une autre source pour nous, mais l'enceinte va la traiter d'une façon aussi neutre et indépendante que le vinyle ou que anciennement le CD, ou qu'auparavant le CD.
Vous suivez un petit peu l'actualité de vos confrères. Comment oui. vous êtes par rapport à tout ce qui se fait, ce que vous...
Oui, bien sûr. On est toujours en veille technologique. On regarde. Mmh. Bon, on voit beaucoup de fabricants d'enceintes se lancent dans le casque, par exemple. Mmh. Ce qui est, que les gens essayent de se diversifier, peut-être non sans raison.
C'est quelque chose qui vous attire ?
Le casque ? Mmh. Non, pas aujourd'hui. Non, si vous voulez, je suis... Notre démarche, on est vraiment dans une démarche très, très impliquée dans la qualité de restitution sonore au niveau des enceintes acoustiques, aujourd'hui. Et pour l'instant, on maintient. Il y a encore des évolutions technologiques à venir. Reste ensuite effectivement à savoir et à mesurer quel panel de clients on peut mobiliser, on peut sensibiliser avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de toujours évoluer en technologie. Il faut aussi que ça corresponde à une demande de la part de la clientèle, c'est une évidence.
Alors dites-nous, si les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous écoutez comment la musique chez vous ? Avec quel matériel et... Quel support ?
Alors, je vais être très franc avec vous, j'écoute sur support CD et dématérialisé, les deux. Mmh. Le vinyle, il y a longtemps que j'ai mis deux. C'est pas que je n'aime pas. Mmh. Le vinyle a des. Ça a beaucoup de qualité, mais pour des raisons essentiellement de praticité, le CD a aussi beaucoup progressé ces dernières années. Et maintenant, avec la musique dématérialisée, qui, on le voit, ne cesse de progresser en termes de qualité. Que ce soit en termes d'encodage, que ce soit en termes de conversion, on sent que tout cela avance rapidement.
Alors c'est quoi votre installation ? Vous écoutez la musique sur quoi ?
Alors, en ce qui concerne le lecteur CD, là actuellement j'écoute sur une source hollandaise, donc un gros convertisseur avec un drive. En électronique, j'écoute actuellement... Parce que ça change régulièrement. Une électronique italienne qui s'appelle NAF, New Audio Frontiers, qui est un gros préampli à tube de très très grande qualité, associé à des blocs stéréo allemands. c'est très international, qui s'appelle Audio Project, qui est une marque d'amplificateur à transistor classe A, petite puissance, mais d'une musicalité extraordinaire. Je pense que j'ai rarement entendu le respect des espaces, des volumes et des temps aussi bien marqué qu'avec ces électroniques. C'est hyper musical au sens strict du terme. Une vraie géométrie dans l'écoute, réaliste. Et en enceinte, bon, j'essaye d'écouter des coulisses.
J'essaye.
Voilà. Tout ça est câblé avec des câbles maison, des câbles coulisses de la gamme premium qui sont le haut de gamme de nos câbles.
Est-ce que le succès de la Lully vous donne envie d'aller un peu plus dans cette direction de prix? On risque de croiser quel type de nouveautés, tant que ça reste pas top secret chez Qualys oui. dans les années qui viennent?
Oui, nous avons l'intention là encore d'élargir encore un peu plus le scope avec une enceinte plus petite. Qui gardera toujours ces traits de caractère de la marque, mais d'un budget encore plus abordable et moins encombrant également. Là aussi, les gens ont envie d'écouter des choses de qualité, mais en étant peut-être moins oppressés par la chaîne de fidélité chez soi. Donc on va vers des réductions de format, c'est la tendance quand même actuellement, c'est une évidence.
Qu'est-ce qu'écoute le mélomane que vous êtes comme type de musique?
Je vais toujours être franc avec vous. Moi, j'ai une préférence pour la musique classique et en particulier pour le baroque. C'est la musique qui me touche le plus. J'écoute de tout, la musique du monde, du jazz, même de la variété. Je ne suis pas hostile, même si parfois je me demande ce que les ingénieurs du son ont voulu faire exactement sur certains disques de variété. On est toujours un peu perplexe parfois. Mais bon, la musique en général.
Bien. Merci Eric Bangut.
Je vous remercie.
cobuzz.com. Rencontre
haute fidélité
par Marc Zisman.